Aujourd'hui, dimanche 24 février, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Aujourd'hui, c'est la Saint-Modeste. Modeste, un nom dur à porter. Par exemple, vous ne pouvez pas vous prénommer Modeste si vous êtes animateur télé. Sinon, ça fait rire tout le monde. Aujourd'hui, c'est aussi jour de fête nationale en Estonie. L'Estonie, en voilà un pays dont tout le monde se fout royalement. Alors qu'il y aurait plein de choses intéressantes, voire passionnantes à dire sur l'Estonie. Bon, là, j'ai rien qui me vient. Mais je suis sûr que si on prend le temps, on trouve. Voilà, j'ai pas le temps. Dommage. Sinon, cette semaine, évidemment, la disparition du grand Karl Lagerfeld, qui a tant fait pour la mode et tant fait pour que des jeunes filles soient déprimées quand elles dépassent les 35 kilos. Alexandre Benalla fait un petit séjour en prison. D'aucuns disent, quel dommage. D'aucuns disent, il était temps. À part ça, cette semaine, deux infos quand même de première importance. On a appris que certains cardinaux étaient de sacrés petits coquins. Exemple, Monseigneur Luigi Ventura, ambassadeur du Vatican à Paris, qui apparemment a beaucoup de mal à garder les mains jointes. Un dépôt de plainte pour Manfesse a été déposé. Attention, Manfesse en public devant 300 personnes. Quelle bande de farceurs, ces gars du Vatican. Autre info, on avait des doutes, mais là, c'est sûr. Mike Tyson est vraiment con. Cette semaine, tout fier de lui, l'ancien champion du monde de boxe s'est confié dans une interview. Il a déclaré qu'en 1986, à l'occasion d'une visite privée dans un zoo, il avait proposé au gardien 10 000 dollars pour qu'il lui ouvre la cage aux gorilles. Il voulait tout simplement, je cite, « aller leur casser la gueule ». Ah ben, quand t'es con, hein, voilà. Sinon, l'excellente nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un homme exceptionnel. Un homme qui fait progresser l'art musical à son sommet. Et aujourd'hui, Plastic Bertrand a 65 ans. Quand tu penses que pour des raisons bêtement écolo, on veut supprimer le plastique, là je dis, quelle connerie ! Bon anniversaire, Plastic ! Vous les femmes. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, les amis, pour m'accompagner. Ah, je le dis tout le temps, hein, l'homme qui a tous les talents, surtout le talent d'être fan absolu de Plastic Bertrand.
Oui.
Albert Algou, comment allez-vous?
Je vais très bien, d'autant plus que vous me flattez, vous mouillez la compresse une fois de plus.
Et quelle belle expression.
Alors, je hais les dimanches.
Oui.
Sauf ceux où je dois me rendre ici. Je dois, non, c'est pas une obligation, c'est un plaisir. Donc, je me rends compte que j'aime les dimanches et d'autant plus ce dimanche précis puisque nous recevons deux invités dont je n'ai pas encore le droit de dire le nom.
Question de seconde, puisque je vous le dis tout de suite, nos invités en ce dimanche 24 février sont...
France Inter, Vous les femmes, Daniel Morin.
Journaliste, animatrice et, on le sait moins, comédienne, une carrière très très service public qui s'est achevée sur une séparation sans explication il y a moins de 3 mois. Elle n'est pas en promo, et même si je suis sûr qu'elle a plein de projets. Non, elle vient nous voir pour papoter et c'est très bien comme ça. On est ravis de la recevoir. Bonjour et bienvenue à vous, Catherine Sellac.
Quel bonheur de vous rencontrer.
Ah, c'est chouette, hein, moi je suis ravi.
Mais oui, on s'est jamais rencontré jusque-là.
Jamais.
Et ça fait longtemps qu'il en parlait, hein.
Ça lui tenait à cœur. Je suis pas sûre.
Ah, si, j'ai demandé.
Non,
j'ai dit,
c'est la vérité.
Catherine,
c'est
la vérité. Oui.
On dit toute la vérité ici? Pendant une heure, on dit toute
Presque.
La vérité?
Ah, c'est un exercice très nouveau pour moi, mais. Écoutez, je veux bien prendre des risques. Je vais essayer.
Tentons-le.
Comme des fous. Mais ravi de vous accueillir. Merci. Face à vous, actrice, metteuse en scène, écrivaine. En plus de ses qualités professionnelles, elle a comme particularité d'avoir éternellement un physique d'adolescente. Une ado en promo, elle, en promo pour une pièce intitulée La Dégustation, dans laquelle elle joue aux côtés, entre autres, de Bernard Campan, qui lui, en revanche, vieillit très très vite, on peut le dire.
comme le vin.
Il est de plus en plus beau, Bernard.
Il est très très beau, et physiquement, il est affûté.
Ouais.
Bonjour et bienvenue, vous entendez sa douce voix. Isabelle Carré, ça va?
Ça va bien.
Oui,
moi aussi, je suis bien contente d'être là.
Vous êtes un peu souffrante.
J'ai été grippée, mais là, ça, je commence à remonter la pente. Donc
remonter
tout va bien.
La pente doucement, mais sûrement.
Comme Daniel.
Ça fait longtemps que j'ai atteint le point de mon retour. Hein. Bon, présentation très, très, très sommaire. Alors, pour mieux vous connaître, hein, je vais laisser la parole à un ami. Ami cousin d'un célèbre agent de star. C'est à vous, Jean-Dominique Besnéard.
Salut, vous les femmes, et vous aussi, les garçons.
Coucou.
Daniel, alors, je tenais mordicus à vous féliciter pour le choix de vos invités. Mon cousin Dominique, vous l'avez cité, que vous connaissez donc, et dont le casting était le métier, il vous dirait une super actrice et une journaliste iconique, j'ai une distribution sans ça. Mais personnellement, j'ai une autre raison d'être content.
Bah, c'est mieux. Pouvez nous préciser cette raison, Jean-Dominique?
En tant qu'orthophoniste des stars du grand et du petit écran, c'est mon métier, j'apprécie la diction. élocution, oui. Prononciation, articulation, aussi bien d'Isabelle Carré que de Catherine Schellac. Ils ont du mérite.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais enfin, prenez Isabelle Carré, alias Hortense, dans la pièce La Dégustation.
Oui.
Elle s'amourache de Jacques, alias Bernard Campan. Pas si vieux que ça. Le taulier Chacavin d'un bar à vin. Bah, malgré ce que tous les deux s'envoient dans le cornet, se postronne, sirote, siffle, pitance, descente, ouais, se boitonne, s'arsouille, se rince.
Il va enchaîner, Jean-Dominique, enchaîner, bon. Allez-y.
Malgré tout ça, bien, Isabelle, alias Hortense, n'a jamais la langue pâteuse, à la façon de Bourville. Vous vous souvenez, dans l'eau ferrugineuse. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse. J'imite bien. L'eau ferrugineuse. Oui.
Hein, vous êtes parfait, mais vous n'allez pas faire tout ce qu'est du Jean-Dominique, s'il vous plaît.
Dommage.
Ramassez votre dentier.
C'est dommage.
Ça, c'est vrai, c'est très dommage.
Ça lâche blédina dans la bouche. C'est plus amusant que les imitations, en tout cas, d'approximatif votre ami Albert Algou. Il est où, celui-là,
la Il va pas tarder à revenir, dépêchez-vous, il tient son siège.
Il est dans le secteur?
Oui, il est pas loin.
Alors, en attendant, je tire aussi mon chapeau à Catherine Schellac. Bon, ok, c'est pas la jaja ou au vin rouge qu'il y a le carburant. Thé ou café.
Oh,
alors je peux vous dire que mes patients...
Oh là là.
Non mais attendez,
ah
je peux vous dire que mes patients qui abusent de ces excitants... Bonjour la voix qui suinte. Et je parle pas des fautes de syntaxe, les barbarismes. Bah malgré toutes les taches de kawa et de thé qu'elle a sifflé, Catherine Schellac, elle a toujours gardé une tessiture d'une douceur, un phrasé mélodieux. C'était pas le seul sous le charme. Et ça rend d'autant plus intéressantes ces interviews.
Ouais, je suis sur le cul, c'est la première fois que je vous entends complimenter autant nos invités.
Ah bah ça suffira comme ça, bonne émission.
Merci Jean-Dominique pour, voilà, maintenant on a l'impression de mieux vous connaître. Alors Isabelle Carré pour une pièce formidable, un gros moment de divertissement, mais qui marche du début à la fin. Et pourtant, il y a quelques valeurs cachées à l'intérieur, on en reparlera tout à l'heure. Et Catherine Schellac, qui vient pour le bonheur d'être ici, un bonheur qui est partagé. Les amis, on se retrouve tout de suite après de Blaze. Chiche.
Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been loved. She's never been loved.
She's the Blaze sur France Inter dans Vous les femmes.
Vous les femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui. Les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Et en ce dimanche 24 février, les femmes présentes sont Catherine Sella, qui n'a rien à vendre, ni à défendre, ni à présenter avec nous, juste pour le plaisir, pour le sien, je l'espère, pour le nôtre, c'est sûr, face à Elisabeth Carré, en ce moment au Théâtre de la Renaissance, dans la pièce La Dégustation, aux côtés, entre autres, de Bernard Campan. C'est jusqu'au 30 juin, du mardi au samedi à 21h, les samedis et dimanches à 16h30. Allez, je vous donne l'adresse vite fait, 20 boulevard Saint-Martin, c'est dans le 10e arrondissement de Paris. Mesdames, nous allons revenir sur quelques dates qui ont émaillé vos parcours brillantissimes. On commence par vous, Catherine Sella, si vous voulez bien. On commence en 1970, Les Troyennes, premier rôle au théâtre.
Ah ouais, quand même, commencer par Les Troyennes.
Alors, c'était un tout petit rôle, c'était une figuration, et je jouais donc une Troyenne violée. Mmh. Donc j'avais 14 ans et demi, et c'était la première fois que mes parents me voyaient sur scène. Donc ils étaient hyper contents, je leur avais fait savoir que j'avais un rôle dans une pièce de théâtre, qu'il y avait 10 représentations, c'était à la Maison de la Culture de Rennes, c'était quand même pas rien, quand même, bon. Donc ils avaient très peu l'habitude du théâtre, mon père était fonctionnaire, ma mère travaillait pas, elle s'occupait de ses trois filles, et donc ils se sont endimanchés, ils se sont habillés,
c'était
mon
père la sortie.
Son costume, c'est la sortie, ils étaient super contents et flattés de voir leur fille donc sur scène, et ils ont attendu premier acte, deuxième acte, troisième acte. Alors là, ils n'ont pas bien compris. Ils attendaient toujours. C'était l'Arlésienne. La fille n'arrivait toujours pas. Et à un moment donné, puisque en fait, j'arrivais tout à la fin, j'ai fait une apparition. J'ai poussé un cri et je suis sortie de scène.
Ah, voilà. Oui, quel cri !
Quel cri !
C'est sûr.
Bon, faudrait compte, Catherine. Faut pas se louper.
C'est certain. Et donc, ils ont été extrêmement émus par ma prestation.
Et quand j'ai fait des commentaires.
Oui. Après, ils m'ont dit, c'est ça le métier de comédienne.
D'accord.
Fais des études et passe ton bac d'abord.
1980 pour vous, Catherine Sella, c'est Paris et c'est Antenne 2.
Oui, alors je débarque telle Bécassine à la gare Montparnasse. Donc moi, je viens de Rennes.
Bécassine, la Bretonne qui arrive à Paris.
Oui, voilà, c'est ça. Donc j'avais fait de la radio, j'avais fait de la télé, j'avais fait un petit peu de théâtre, on vient de l'évoquer. Et donc je débarque et moi, je voulais être comédienne avant tout. Donc à l'époque, vous vous souvenez sans doute, il y avait Brie-sur-Marne, il y avait... Donc on arrivait avec son bouc, avec le peu de choses que j'avais fait.
Regardez,
je viens de vous le raconter.
Le cri, le cri, c'est moi.
Et bizarrement, je n'ai jamais été choisie pour des fictions. J'ai senti que je n'avais pas un grand avenir sur le moment. Donc, à la télévision, il y a eu un examen. C'est-à-dire qu'on passait un examen pour rentrer à la télévision à l'époque. Et j'ai passé un examen, j'ai été donc choisie. Et j'ai été pendant 2 ans ce qu'on appelait les speakerines, donc les présentatrices. Donc j'étais un pot de fleurs, une sorte de pot de fleurs.
Annoncer les programmes qui suivaient.
Et j'annonçais les programmes. Alors, là, le seul avantage peut-être de cette période-là, c'est que j'ai appris en fait à bien me débrouiller en direct. Mmh. Et ça, j'ai appris au moins un peu mon métier grâce à ça. Mais c'était le début quand même, voilà, d'une vie professionnelle qui a été après très très nourrie et riche. Et ça, je remercie le service public parce que c'est vrai que il était assez facile, surtout à cette période-là, en fait, de brûler un peu les étapes, d'être à la fois faire de l'animation, de devenir journaliste,
de pas être cantonné à
voilà,
quelque chose.
Voilà, voilà, c'était beaucoup moins clivant qu'aujourd'hui et cloisonné, et tout était beaucoup plus ouvert. En fait, quand un directeur ressentait voilà, qu'il y avait une petite compétence, hop, il lui donnait, enfin, ou à moi, on m'a donné ma chance.
Et là, on va prendre un petit peu de hauteur, c'est en 1989.
Catherine ?
Oui, bonjour, j'espère que vous nous voyez, que vous nous entendez.
Très bien.
Bon, ben, je suis ravie. Alors, on est un petit peu émus avec mon pilote, c'est Jean-Paul Mauguer, dit Polo. Alors, je dis à Polo d'aller mollo, parce que c'est pour la première fois pour moi que je fais de la voltige. Mais là, j'ai du mal à vous parler, parce que j'ai un peu l'estomac dans la bouche, comme on dit.
J'ai l'estomac dans la bouche. Alors, cette phrase, on va la garder. C'est Catherine Sellac, qui est en train de faire de la voltige. Oh, apparemment, les souvenirs reviennent. Catherine, vous êtes morte de rire.
Non, mais c'est...
Racontez-nous ça.
Je dis n'importe quoi. Je pense que c'est voilà, c'était le vertige, l'ivresse.
Non, c'est très clair ce que vous dites.
Le bonheur, l'exaltation. Et donc je suis dans un petit cap 10 et là on
on fait de l'acrobatie, mais de la vraie, hein, c'est-à-dire on se retrouve évidemment
À l'envers,
de l'autre côté, on rase la Méditerranée, enfin bon, moi,
j'ai adoré ça.
Oui, enfin, pourquoi pas.
D'accord, pourquoi
Parce
pas, ok.
Pour aller chercher le pain.
Vous faites pas d'acrobatie régulièrement.
Maintenant, j'ai très envie d'en faire.
C'était pour le Téléthon.
D'accord. Voilà.
À l'époque, pour le Téléthon, en fait, on travaillait beaucoup en fait avec l'armée et on avait toutes les possibilités. Donc, ça m'a permis de faire de l'acrobatie, mais aussi l'Alpha Jet. Ça, j'ai adoré ce moment-là, c'est-à-dire avec la patrouille de France, vous savez, ceux qui passent quand même le 14 juillet au-dessus des Champs-Élysées. Et là, ça a été un moment très important, en fait, dans ma vie, parce que moi, je suis assez casse-cou, ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'aime
aujourd'hui,
bien...
ça va, en tout cas, vous n'êtes pas abîmé. Là, vous êtes dans le studio,
toute pimpante, pas abîmée du tout. Et donc, j'aimais bien l'histoire de performance un peu physique. Oui. Moi, quand j'étais au-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit les Pyrénées, voilà, enneigé, et on voit les Alpes enneigées, c'est extraordinaire. Je me disais, si c'est ma dernière minute, elle va être superbe. Ça ne me gênait pas, en fait, de mourir à ce moment-là. Vous voyez, d'avoir
devant
conscience...
Devant la beauté de ce que vous voyez.
Oui, oui. Et si c'était fini, si c'était là, mon dernier moment, eh bien, c'était presque jouissif. J'aurais presque aimé que ça le soit.
Top des sensations, en fait.
Ouais, ouais. C'était extraordinaire. Mais je conseille ça à tout le monde.
Vous comprenez ce genre de sensation si c'est la dernière minute, elle est tellement belle que...
Alors voilà. Moi, mes amis m'appellent Crinto Woman, donc je ne crois pas que ça soit vraiment pour moi. Moi, j'aime bien la dernière minute, mais alors très très vieille, voilà, entourée de mes petits-enfants, devant un beau paysage,
en même temps,
la mer,
Isabelle, si je ne m'abuse, vous êtes quand même tombée du deuxième étage quand vous étiez...
Oui, mais ça, c'est que j'avais 3 ans et demi, je pensais que je pouvais voler. C'est un petit côté Icare aussi, c'est vrai.
Les sensations par Isabelle Carré. Ah oh, tiens, je vais voir si je vois le... Bah non, ça vous empêche pas d'être avec nous. 1996, création de la légende. Thé ou café ?
Oui, thé ou café. Alors là, ça a été aussi un peu compliqué. Je quittais le journal de la nuit. Et puis, à un moment donné, il a fallu laisser la place à quelqu'un d'autre. Ce qui arrive quand même d'une manière assez régulière dans l'audiovisuel. Et là, on m'a dit, le placard, un petit placard doré, ce sera bien. Tu peux rester comme ça quelques mois. Mais bon, c'était quand même oublié quand même que j'étais un peu dolmen. Je suis bretonne. Donc, un peu têtu. Et donc, j'ai fait une proposition d'émission le samedi et le dimanche. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, en 96, il n'y avait rien. Il y avait la mire. C'est-à-dire, il y avait télématin du lundi au vendredi. Et le samedi et le dimanche, c'était la mire à 7h du matin. Mmh. C'est pas si vieux que ça, quand même.
Non, je me souviens pas
et,
du tout.
Et donc, j'ai fait une proposition pour que ce soit une émission en direct. Ça devait se faire à partir d'un restaurant, Avenue Montaigne. Bon, donc, on m'a renvoyé mon projet en me disant que c'était trop cher. Et du coup, j'ai réduit un peu mes prétentions. C'était plus en direct, c'était un peu une émission enregistrée. Mais toujours avec un tête-à-tête et avec la découverte de quelqu'un, d'une personnalité très intimiste. Mmh. C'était un vrai tête-à-tête.
Vous, Isabelle, vous y avez participé bonne cinquantaine de fois. Donc,
c'est vrai, mais j'ai adoré ça.
C'est quoi le style, Catherine Sellac?
Le style, c'est d'abord une vraie écoute, l'impression d'être reçue chez une amie, un accueil, je sais pas, quelque chose de chaleureux, on sait qu'il y aura pas de piège, mais en même temps, on ira vers des choses assez profondes quand même. Un espèce de mélange comme ça entre beaucoup de douceur et en même temps où on vous pousse quand même un petit peu à découvrir d'autres choses, à déchirer un peu le voile. Donc, mais toujours avec un grand respect, une grande attention.
Ah faut se méfier. Une femme qui voit les Pyrénées à l'envers et qui se dit je peux mourir, oui, on peut s'attendre à tout.
Moi, ce qui me frappait, c'est l'empathie. Voilà.
Ouais, l'empathie, c'est
ça.
Vrai.
Dans le journalisme, c'est pas évident.
Et on revient quelques années après. On se souvient de ses débuts à Rennes. Un cri. Et je m'en vais. Et là, c'est en 2006. Et là, attention, 3 jeunes filles nues, c'est le théâtre avec l'ensemble, enfin une grande partie des animateurs de France 2. C'est quoi comme souvenir ?
Oh, mais je suis un peu gênée de parler devant Isabelle, parce que c'est vrai que la scène, pour moi, je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, il n'y a rien de mieux. C'est un vertige fou. Pour moi, la scène, il n'y a rien de plus beau.
Puis le métier... avoir l'émulation d'être aussi avec tous ceux que vous connaissiez aussi. Voilà. Vous avez des copains dans la
Alors, troupe. Oui, et puis, vous savez, on dit toujours la télévision, c'est une grande famille. Alors là, je le dis aujourd'hui, en ce dimanche, ce n'est pas vrai.
D'accord, c'est noté.
Voilà. Mais en revanche, quand on monte sur scène, notamment, on a le trac, et du coup, ça apporte, ça apporte, c'est ça, une sorte de
fraternité.
De fraternité, de sororité. On a envie de se blottir les uns dans les épaules des autres.
Ouais. Quand on a peur ensemble, ouais.
On a peur ensemble, et donc on se réconforte. Et après, ben il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. C'est-à-dire que ceux avec lesquels on a eu cette expérience-là, on aura une relation ad vitam aeternam meilleure qu'avec les autres.
Mmh. Parce qu'il y a eu ce petit moment privilégié.
Exactement, tout à fait.
C'est pour vous rassurer aussi que vous vous blottissez contre Bernard Campan dans la pièce de dégustation, parce que vous êtes très très proche.
C'est vrai ce que vous dites, que ça crée des liens quand on a... Enfin, nous, on a ce souvenir des belles choses qui datent de 17 ans, mais c'est comme si c'était hier. Et d'avoir joué ce film-là ensemble, même si ce n'était pas sur les planches. Là, on est tellement heureux de se retrouver sur les planches. Mais il y a ce lien qui est là, qui est indéfectible en fait.
Alors, maintenant, nous sommes en février 2019. Vous êtes sur France Inter, Catherine. Et comme dans votre émission Thé au Café, vous avez popularisé l'interview dos à dos, on va procéder à une interview qui sollicite une autre partie du corps. C'est l'interview joue contre joue. Vous venez avec moi ?
Ils le font. Ils ont changé de place. Ils sont sur des fauteuils collés.
Ils le font vraiment.
Musique. Catherine Sellac, dans vos interviews, vous êtes dans l'empathie, on l'a dit, contrairement à beaucoup qui sont plutôt abrupts. Est-ce que c'est une façon d'en obtenir plus d'un invité ou c'est dans votre nature ?
Je pense que c'est un peu les deux. Pardon pour cette réponse, mais je crois que c'est dans ma nature. Dans la vie, je suis un peu ainsi. Et puis, je pense qu'on obtient beaucoup plus en maniant la tendresse, en maniant la douceur, en maniant aussi la séduction, beaucoup plus que l'agressivité.
Vous n'avez pas eu peur quand, furieux d'une question relative à ses affaires sur le Crédit Lyonnais, Bernard Tapie a failli en venir aux mains avec vous ?
Ah si, assurément. J'ai pensé que j'allais m'en prendre une. Et tout du long, pendant l'émission, je me suis dit intérieurement, je lui en collerai une, je répliquerai aussi.
J'en mettrai au moins une.
Voilà, c'est ça. Et alors, j'ai pas eu trop l'occasion parce que à la fin, il s'est fâché de toute façon dès le début, donc ça a été très tendu. Et à la fin, il a arraché son micro et il est parti.
Il est parti furieux.
Et puis quelques minutes plus tard, alors l'équipe est venue, m'a dit ça va, ça avait été franchement, ça avait été violent parce qu'il est très sanguin. Et quelques minutes plus tard, il est revenu comme un enfant, un enfant, un peu la queue basse, pardon. Et là, il a dit où est le photographe ? Il a voulu éterniser quand même la fin de l'émission. Donc vous voyez, c'est un personnage un peu double hein, quand même. Il y a le côté effectivement sanguin, bagarreur, colérique. Puis à notre côté quand même, il sait bien quand même jouer avec les médias. Mais ça,
oui, le côté communicant, on prend la photo quand même. Voilà. Et qu'est-ce qui fait le plus peur ? Bernard Tapie, foudrage ou Frédéric Mitterrand que vous avez reçu qui était encore sous Viagra ?
Frédéric Mitterrand me fait pas trop peur, vu de toute façon ses orientations sexuelles. Donc non.
Vous étiez plutôt tranquille.
Oui, franchement, c'est un personnage intéressant, mais sur ce plan-là, non, je me suis pas sentie du tout agressée.
Est-ce qu'on est fier de faire des blagues à François Hollande qui est venu sur votre plateau et de faire chanter Nicolas Sarkozy ?
Oh, fier, non, mais amusé certainement, ouais, bien sûr. Oh bah oui, quand Nicolas Sarkozy chante Gabriel, c'est vrai que c'était une petite performance parce que à l'époque, il était un peu rigide et donc parvenir à ça. Mais c'est l'émission qui s'y prêtait aussi. Il y avait de la convivialité, il y avait de la mise en
confiance et de l'empathie.
Voilà, et ça joue. Et puis François Hollande, ce qui restera aussi de François Hollande, c'est quand il arrive quand même. On est on devait être presque 2000 et il arrive en scooter quand même.
même sur le plateau. Ça, c'est quand même... avec son casque.
Hein, c'est l'homme du scooter.
Mais donc en fait, on avait vu juste. Et après, il fera la une de Closer.
Catherine Sellac, à la fin d'une de vos célèbres interviews, le comédien Jeremy Irons vous invitait à déjeuner et vous avez subtilement décliné en lui répondant que vous alliez à la cantine de France Télé. Si je vous invite à déguster un jambon braisé frite à la cantine de Radio France demain, vous acceptez ?
Bah, je serais crétine, hein, franchement. D'abord, j'ai été crétine avec Jeremy Irons.
Ah oui.
Alors vraiment. Alors moi, je ne rate plus aucune occasion. Alors je vous dis oui, allons-y.
Formidable, double jambon braisé, ce sera pour demain vers 13h. Merci Catherine Sellac.
Refuser à Jeremy Irons, mais comment c'est possible?
Tout à coup, je me suis sentie très importante. Je me suis défilée. Je pense qu'en fait, je me suis défilée.
Quelle réponse idiote.
10 minutes plus tard. Mais qu'est-ce que j'ai dit?
C'est ça, exactement.
Ah, vous avez entendu Isabelle Carré. Jamais elle disait non. Elle disait oui avant même de savoir qu'elle
envoie. Jeremy Irons, quoi, quand même.
Ensuite, quoi. Tenez, Isabelle Carré. Puisque vous avez envie de parler, on va s'intéresser à vous. 1999. Mademoiselle Else, vous avez la gastro pour jouer cette pendant quelques
c'est
jours.
C'est vrai, aujourd'hui j'ai la grippe. Tempérament valétudinaire.
Mais Mademoiselle Else, vous jouez avec la gastro, c'est l'enfer, mais quand même.
Grande soirée également pour Isabelle Carré, nominée à 3 reprises. Elle remporte le trophée de la meilleure comédienne pour Mademoiselle Else.
Voilà, quand même. Malade, mais le Molière.
Oui, bah oui, c'était le premier. Premier Molière, j'en ai eu 2. Peut-être le 3e, ça sera Molière d'honneur.
Tant que c'est pas Molière
dans
costume.
Dans une bonne vingtaine d'années.
Tant que c'est pas le costume, non, mais c'est ce qui compte. Alors, récompense, eh ben, on continue, hein, on est en 2002.
Mon beau homme. Mon petit manneau joli.
Le César de la meilleure actrice est attribué à Isabelle Carré.
Isabelle Carré,
c'était pas n'importe qui, quand même,
qui reçoit par Philippe Noiret.
Ah,
c'était déjà Bernard Campan dans ce souvenir.
Rien que de réécouter sa voix là, Bernard, dans ce film, ça me donne envie de pleurer.
C'est vrai.
C'était beau ce film.
Mettez de l'ambiance, allez-y, pleurez.
C'était son premier film à Zabou quand même, et quelle réussite en fait d'avoir su toucher les gens comme ça sur un sujet. En plus, Alzheimer, c'était pas du tout gagné que ça fasse autant d'entrées. Les gens ont suivi parce que ce film était sincère, profond. Et puis c'est cette rencontre avec Bernard et Zabou, on était un trio vraiment de choc, quoi. On s'entendait super bien.
Et puis en théâtre, elle se débrouille pas mal non plus, parce que là, on passe en 2004 avec L'hiver sous la table.
L'hiver sous la table de Roland Topor avec Dominique Pinon. Ouais.
6 Molières, donc meilleur spectacle, meilleure mise en scène et meilleure comédienne.
Oui. Et Dominique aussi avait eu le prix. Ouais, c'était un beau moment. Mais c'était la grève ce jour-là, donc vous pouvez pas, on peut pas entendre de son. Il y a eu la grève des intermittents ce jour-là.
D'accord, c'est pour ça qu'on n'a rien trouvé.
Moi, j'ai trouvé ça super parce que du coup, on a eu nos prix, on n'a pas eu la soirée interminable.
Parce qu'ils étaient en grève. Et en 2018, premier roman, Les Rêveurs. Alors ça, c'était une sacrée aventure.
Et oui, c'est vrai que ça faisait 20 ans que j'en rêvais, d'où le titre, hein, Les Rêveurs. Quand j'ai enfin pu le aller au bout de ce désir, là, grâce d'ailleurs à un atelier d'écriture organisé par Philippe Jean chez Gallimard, ouvert à tous, je le dis. Voilà, j'ai participé à cet atelier-là pendant 3 mois, tous les jeudis soirs, et j'écris le début du premier chapitre du livre, Pantin. Et après, j'ai pas voulu suivre les autres ateliers, parce que là, je voulais vraiment, autant j'adore être dirigée dans mon métier de comédienne, et qu'on me dise plus comme ceci, plus comme cela, moins d'émotions, plus d'émotions, à droite, là, c'est mieux d'être là, dans cette place-là, etc. Autant pour l'écriture, je veux être libre, et pas être influencé.
Vous vouliez qu'on vous guide au départ et après.
Juste avoir l'impulsion en fait. Mm-hmm. Et c'est ce que ça m'a donné. Donc,
Et là on passe à février 2019. Vous êtes ici sur France Inter pour nous parler de la dégustation.
Donc chacun va prendre son verre. On va commencer tout de suite. Je vous explique le principe.
Ah. Merde, j'ai pas recraché.
On va pas y arriver, hein, Steve. Alors, on ne goûte qu'au moment où je le dis. C'est compris ?
Oui, c'est pas de ma faute aussi si je suis un rapide.
Hein. Non, ça veut juste dire qu'avec vous, le vin il glisse bien. Mais je vous jette pas la pierre. Hein. Avec moi aussi, ça glisse tout seul.
Là, on est au verre de vin blanc déjà. Là.
Voilà, la dégustation a commencé.
Et voilà, et c'est l'ambiance générale où, c'est vrai, tout le public rit de bon cœur.
Ben voilà, c'est le moment un peu clé, cette dégustation. Bon, dès le départ, ça part très vite. On sent que les gens ont ce désir aussi, là, en ce moment, de rire, qu'on peut comprendre. Mais encore une fois, ce que j'aime dans cette pièce, c'est que c'est un rire bienveillant qui nous fait aller les uns vers les autres, un peu comme dans les films de Capra ou de Lubitsch, où quand on sort, on a envie de se réunir.
Bon, on fait un petit point justement sur cette pièce. Alors, vous êtes aux côtés de Bernard Campan.
Oui.
Vous êtes aussi avec Mounir Amamra, Éric Veillard, Olivier Clavry. C'est aux têtes de leur naissance jusqu'au 30 juin. Mm-hmm. Alors, l'histoire. Hortense, vous, Isabelle Carré, célibataire engagée dans le monde associatif, s'inscrit à un atelier dégustation dans la petite boutique Cava Vin de Jacques, un individu un peu bourru et célibataire lui aussi. Au milieu de tout ça s'incruste Steve, un jeune homme en liberté conditionnelle qui, sans trop le vouloir, va jouer les entremetteurs. Un trio mouvementé qui en plus fera valser avec lui le médecin de Jacques et son voisin libraire, tous les deux amateurs de bon vin. Ça ressemble à ça, Isabelle Carré?
Ah, c'est parfait. Il faudrait que vous me donniez l'enregistrement et je le replace à chaque émission. Attendez.
Le pitch. J'ai le pitch.
Tenez, je l'ai. C'est même,
avec
c'est
la
même
bonne
illustré.
Musique.
C'est même illustré. Alors, la pièce, succès énorme, on l'a dit. Pur divertissement, du début à la fin. Et à la fin, vous l'avez vu aussi, cette pièce, Catherine. Catherine, c'est là que c'est un triomphe total. Triomphe total.
Oui, c'est une ovation, ouais. Mais méritée.
Oui, complètement.
Parce que, et d'ailleurs, ça marche dès le début. C'est-à-dire, vous rentrez chez le caviste, et alors, les gens ne rient pas sur l'entrée, mais sur les premières répliques.
Oui.
Ça doit être mais jubilatoire, ah. Non
c'est oui, du moi miel, qui suis non plus habituée au drame, effectivement, j'ai quelques comédiens à mon actif, enfin, c'est dans la proportion, ça doit être un 30-70. Ouais. C'est galvanisant, en fait.
Ça et qu'est-ce qu'on ressent ça qu'est-ce bien, qu'on ressent en tant que comédienne?
Bah, on ressent vraiment l'énergie en fait
ça
des gens,
pas.
Du public. Non, ça, alors j'avais très peur de ça.
Ouais.
Ça m'est arrivé une fois là d'avoir une sortie de route et de faire deux fois même des petits fous rires, mais j'avais très peur d'avoir carrément des gros fous rires pendant la dégustation, qui est quand même la scène la plus drôle de la pièce, parce qu'une vino veritas, hein, tout à coup là, tout le monde se livre et puis on va de plus en plus loin. Et j'avais très très peur moi-même de sortir des rails, mais bon, j'ai réussi à me récupérer les deux fois, donc ça me donne confiance. Mais c'est vrai qu'il y a des rires.
C'était samedi dernier.
C'était samedi dernier, notamment.
J'étais là et j'ai vu, il y a eu, je crois, un mouvement de crachat un petit peu virulent et tout le monde était mort de rire. Et ça marche à chaque fois. De toute façon, le public adore assister à ces moments-là.
Il faut juste qu'ils soient au courant, en fait. Qu'ils comprennent de quoi on rit.
Oui, faut pas l'exclure.
On riait parce qu'il y a quand même beaucoup. Ils sont exclus. Puis dans la deuxième partie de la pièce, il y a quand même aussi beaucoup d'émotions. Donc là, ça peut être un peu gênant quand même.
Parce que vous disiez divertissement, Daniel, évidemment, mais profondeur aussi.
Oui, ce que j'allais dire, c'est un divertissement, mais pas que.
Voilà.
Et moi, j'ai trouvé aussi très intéressant, en fait, le décor. J'ai trouvé très astucieux. C'est-à-dire, on est donc dans un magasin qui vend évidemment du vin, mais et à la fois, on va être par la suite dans une chambre d'hôpital. C'est très très ingénieux ça.
Décor d'Edouard Lowe, ouais, qui est très beau et tout en bois comme ça, où on a envie, les gens nous disent souvent qu'ils ont vraiment envie de nous rejoindre. C'est pas que pour le vin, c'est pas juste quoi pour que boire un coup avec nous, mais c'est aussi parce qu'il y a cette chaleur dans le décor et puis cette complicité en fait qui passe. Je crois, j'ai une théorie moi là-dessus, je crois que ça se sent quand les comédiens ont une vraie complicité. Ça se sent pas quand ils s'entendent pas trop bien.
Ça vous est arrivé,
même,
ça
peut faire la blague. Ah oui, ça m'est arrivé, ouais.
Ah ouais.
Rarement,
on
mais ça m'est arrivé,
noms,
ouais.
Mais bon.
Oh, une pièce de Shakespeare, une fois, où c'était un peu compliqué. Mais c'est facile, j'en ai joué qu'une.
C'est lui.
C'est Shakespeare.
Ah, le salaud.
Vous avez dit qu'il fallait s'en méfier.
Ça ne m'étonne pas.
Alors, Hortense, la reine du quiproquo. Quand elle emploie des expressions, je ne vais pas vous les gâcher en vous donnant le...
Il y en a quelques-uns très
savoureux. Il y en a quelques-uns qui sont hyper savoureux et qui chauffent ce pauvre Jacques qui est là. Qui...
Pour moi, ce n'est pas des quiproquos, c'est en fait...
C'est de la spontanéité.
Oui, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas de filtre et qu'elle a vraiment, elle est très en manque d'amour et de sexe aussi. Et ça fait 2 ans, elle le dit à un moment donné, qu'elle n'a pas...
Connu le loup,
voilà, qu'elle n'a pas été caressée, été chouchoutée, bichonnée, aimée. Donc, elle ne parle que de ça, finalement. Même quand elle parle d'autre chose, c'est psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, quoi. Ça sort malgré elle.
C'est beaucoup plus drôle que ce que vous venez de dire, cette pièce. Faut dire à tout le monde. Alors, du rire, des valeurs, du partage, transmission, l'a dit, des thèmes profonds de société... c'est harmonieux, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Les yeux fermiers.
Alors pour une omelette, des œufs fermiers. Les œufs fermiers, c'est
avec un verre de vin blanc.
Ou deux. Pourquoi pas? Si vous trouvez des places, parce que c'est blindé, les amis, du mardi au samedi.
Il y en a encore.
Mardi au samedi à 21h, les samedis et dimanches à 16h30, Théâtre de la Naissance dans le 10e arrondissement. C'est jusqu'à fin juin. Mesdames, on vous a demandé de choisir un titre qui vous rappelait un souvenir bon la plupart du temps. Catherine Sellac, vous avez choisi Sting. Alors pourquoi Sting ?
Parce que Sting, je l'ai rencontré dans le cadre de l'émission de Théo Café. Il est venu par deux fois. Et
imaginez... Là, vous avez été dîner avec lui après, j'espère.
Ah non, il ne m'a même pas invité. Et imaginez Sting avec sa guitare et qui vous chante Roxane. Voilà.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Alors, pas rien pour moi, bien sûr, puisque c'était pour les téléspectateurs. Et il chante Roxane avec... alors lui, on parlait de douceur. C'est un type, d'abord, qui s'intéresse aux autres. Alors, l'empathie, lui, il en a. C'est-à-dire que souvent, les anglo-saxons, ils arrivent... je me souviens notamment de Jane Fonda, elle débarque, elle fait ce qu'il faut,
très professionnelle.
Très professionnelle. Ouais, et puis une fois que le
rouge est éteint,
voilà, c'est ça, les sunlights sont éteints et hop, elle s'en va. En revanche, lui, il arrive, il se prépare, il accorde sa guitare, il parle aux techniciens, il pose des questions, enfin, il s'intéresse aux autres. Et ça, c'est absolument formidable. Il a quand même une jolie réputation, ce style.
Ouais, il a un engagement aussi.
Il a un engagement sur d'ailleurs plein de sujets, notamment aussi écologiques. Et ça a été une très très belle rencontre humaine et pas seulement artistique. Et d'ailleurs Roxane, c'est une petite histoire qui est assez jolie. Et il me l'avait raconté quand il a en 77 enregistré cette chanson qu'il a écrite. C'est parce que il était à Paris et il avait vu des affiches de Cyrano de Bergerac. Et c'est parce que il avait vu que cette pièce se jouait à Paris au moment où il y était qu'il l'a intitulée Roxane. Et quand elle a été enregistrée en studio, il était un peu gris, c'est-à-dire qu'il avait bu, il avait sans doute vu la pièce de théâtre d'Isabelle. Et il avait beaucoup, beaucoup dégusté. Et le matin, il était encore un peu, voilà, sous l'auspice de l'alcool, voilà. Et il s'était rendu compte qu'il y avait un piano derrière, mais il ne s'était pas rendu compte qu'il n'y avait pas de couvercle. Donc il s'est appuyé et il s'est assis même sur le piano sans couvercle. Et quand au début de Roxane, vous réécouterez d'ailleurs l'intro, on entend les cordes qui s'écrasent sous son fessier et un petit rire.
D'accord, ils l'ont gardé.
Voilà, et c'est ça l'histoire de l'enregistrement donc de cette chanson. Je crois qu'elle fait partie d'ailleurs des 500 chansons connues dans le monde entier. Ouais.
Mais quand deux personnes qui sont dans l'empathie, comme vous et Sting, se rencontrent, ça peut être infini comme interview.
Je
ne
peux pas vous dire, c'est le rêve. Non, parce que évidemment, c'est des gens quand même qui sont hyper chronométrés. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était un homme délicat, et puis... ouais, enfin bon, il m'a bien plu.
Une autre légende de la chanson, c'est le choix d'Isabelle Carré. David Bowie dans un cadre bien particulier.
Je l'avais vu à l'Olympia en fait, et j'étais sidérée parce que il aurait donné la moitié, ça suffisait, on repartait hyper contents. Et ça n'arrêtait pas, le concert n'arrêtait pas, il n'y avait pas de pause. Je ne sais pas combien ce concert a duré, peut-être 3 heures et demie, sans arrêter. Et c'était dément, quoi.
Généreux.
Tellement généreux. Et on était tous sidérés. Puis c'était pas simplement le temps, quoi. C'était la façon dont il chantait, dont il dansait. C'est déchaîné pour nous.
Et il y a eu tout son répertoire, tout son répertoire
tout
classique.
Tout y est passé. Tout.
C'était en
2002.
Il nous a
tout fait.
En 2002,
c'était
c'est ça.
Ceux qui se souviennent de ce concert-là, c'était dément. Et ça m'est resté, parce que je pense que c'est ça, en fait. Les vrais artistes, c'est des gens qui donnent vraiment plus que ce qu'on attend d'eux, que ce qu'on peut espérer d'eux. C'est, ça va au-delà, en fait, bien au-delà.
En plus, il prenait la parole entre les chansons.
Ouais, il nous parlait, c'était dément. Et je vous dis, pas de pause. Enfin, je sais pas comment il a fait. Il a tenu.
Star interplanétaire en plus.
Ouais.
David Bowie à l'Olympia, c'était à Paris en 2002. Isabelle Carré, Catherine Sellac, fini la rigolade. On va revenir sur vos vies, mais façon inter. Ça veut dire qu'on va vérifier si vous avez la vraie fibre de gauche, si vous avez le cœur sur la main. On va vous intériser. Tout avait si bien commencé avec Isabelle Carré. Petite, encore plus que maintenant, elle grandit, pas beaucoup, dans les rues de Paris. Paris, ville lumière, ville espoir pour les petites gens qui, au cœur des quartiers populaires, résistent à l'appel du pognon généré par le cœur de la ville. Un peu plus tard, telle un moustique, elle est attirée par les lumières et pose de façon innocente et lascive à la fois pour des magazines. Jeune et jolie, souvent lue par des moches. Ok, magazine lu par ceux à qui on dit non. Et podium pour tous ceux qui éternellement arrivent en quatrième position. Mais tout cela fait-il d'Isabelle Carré une femme de cœur? Non, bien sûr que non. En 1989, Isabelle Carré s'oriente sans le savoir vers le stupre et la luxure en s'engageant vers l'École nationale supérieure des arts dramatiques. Une éducation qui mène tout droit aux portes d'un enfer qu'on appelle la vie de comédienne. Elle est partie pour le musical, théâtre, cinéma, chanson, le cocktail fatal à la vertu qui plonge toutes celles et tous ceux qui goûtent dans les affres d'une vie de souffrance affective qu'on essaye de façon illusoire de réparer à grands coups de verre d'alcool, de lignes de coke et de pétards de bœuf. Inconsciente. Est-on mieux lotie avec Catherine Sellac? On l'a cru. Pas longtemps. Pensez donc, c'est en Bretagne, c'est-à-dire dans un trou noir culturel, que la petite Catherine s'éveille. Mais le fait de grandir au milieu d'un nulle part intellectuel fait-il de Catherine Sellac une femme de cœur? Non, bien sûr que non. Dès l'âge de 13 ans, elle goûte au théâtre. Elle est polluée, ce sera un point de non-retour. Comme le théâtre ne lui sourit pas, elle va plonger dans l'antre du démon, le journalisme. Journalisme qui l'a conduit jusqu'à rencontrer ce qui se fait de pire en matière de monstres. Elle fricote avec Alain Bogras-Dubourg, Jacques Martin, ténor pervers qui a traumatisé des petits-enfants pendant plus de 20 ans, ou encore Jean-Pierre Foucault, satyre aux cheveux teints et au teint orangé, qui pendant plus de 20 ans a tripoté sans vergogne de la fesse de Miss France tout en bouffant le chapeau de la vieille Geneviève. En 1984, elle est foutue définitivement puisqu'à l'occasion d'un gala, elle a le coup de foudre pour un fringant journaliste qu'elle aperçoit pour la première fois de son trapèze, c'est-à-dire à l'envers. Ça ne veut rien dire. Par la suite, elle enchaîne émission sur émission, quand ce n'est pas du théâtre, avec la troupe des dégénérés de France 2 qui ne s'épanouit que dans la débauche. Perverse ! Isabelle, Catherine, vous n'avez rien de généreux en vous, mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir avec nous pour célébrer tous ensemble le 65e anniversaire de Plastic Bertrand. Isabelle Catherine, ne changez rien.
Toutes mes pensées naissent dans les nuits d'ivresse. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, mais où est-ce que t'iras? L'heure est avancée. Ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans la glace, dis-moi, qui es-tu? Dis-lui. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, partons. Et votre nom boudeux, ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Cette nuit, dans cette nuit-là où vous m'avez eu, le rouge à ma honte s'y est beaucoup mieux à mon verre de vin. Comme un peu français, tous les amirals, ça dégénère. Moi, ne faut pas cadencer. Entre mes doigts ruisselle une idée de vengeance. Ça te caresse démangeant mes paumes, je serre les poings. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide.
Toi que je vois dans cet alcool d'agave, dis-moi qui es-tu, oh, dis-lui. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis arrête. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis arrête. Et ma hargne se dilue dans un océan de qui es-tu. Et ma hargne se dilue dans ce liquide. Toi que je vois, dis-moi qui es-tu. Rien de grave doc, ce n'est que moi et mes turpitudes. Ça y est voilà, ça y est voilà.
Faux Chatterton avec l'ivresse sur France Inter.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais. Étends sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Isabelle Carré, vous êtes la présidente du jury Grand Prix Poésie RATP. Pour participer au concours, c'est du 13 mars au 14 avril. Vous vous envoyez vos poèmes, enfants, jeunes. Le 23 mai, c'est la sélection des poèmes, lauréats, par le jury présidé par Madame Isabelle Carré. Fin juin, on annonce les résultats. Ils seront 10 à voir leurs poèmes affichés.
Les enfants peuvent participer, les adolescents peuvent participer, les adultes peuvent participer.
Alors, on a des nouvelles, vous venez de l'entendre, Isabelle Carré, comédienne, Isabelle Carré, écrivaine également. Mais que devient... Que devient Isabelle Carré, chanteuse?
Oula, eh ben, pas grand-chose.
Merci Isabelle.
Isabelle Carré, danseuse dans la pièce.
Si vous applaudissez suffisamment Isabelle Carré, au sixième ou septième rappel, elle entame une petite danse africaine.
Et tout le monde danse de la satisfaction.
Absolument. Oui. Non, rien de prévu pour...
En chanson, non.
Là, vous êtes en duo.
Pour vous dire la vérité, oui, là, je suis en duo avec mon frère.
Avec votre frère.
Dans son album Célibatorium. Et la chanson s'appelle En commun. Il parle de notre enfance et j'en parle d'ailleurs dans Les Rêveurs. Mais je me suis rendu compte donc en enregistrant cette chanson, en enregistrant une chanson dans le film de François Ozon aussi, Le Refuge, ou dans Les Émotifs Anonymes aussi où j'ai chanté, que ben voilà, il y a des prises où je suis juste et des prises où je suis pas juste du tout. Je sais pas pourquoi. Donc vive autotune.
Catherine, c'est là. Quels sont vos projets?
Alors, ils sont divers. Je vais quitter France Télévisions d'une manière définitive dans quelques semaines. Et je vais aller vers tout d'abord un nouveau livre. J'en ai écrit un seul qui s'appelait « À la vie, à la mort ». J'avais demandé à des personnalités de me parler de leur rapport à la mort, à la fin de l'existence. Et là, il y en a un autre, donc chez Flammarion. Je suis aussi un petit peu comme Isabelle en cours d'écriture et aussi de réflexion, et qui s'appellera « À la vie, à l'amour ».
Ah, voilà.
Ensuite, je pense aller vers aussi un peu de presse écrite, parce que ça c'est un sujet, enfin c'est aussi un média qui m'intéresse. Et puis aussi vers le théâtre. Où
j'allais parler de la comédienne. Que devient la comédienne?
Voilà.
Parce que c'est quand même votre première passion.
Exactement. Voilà. Donc, j'aimerais bien boucler la boucle.
Albert Algou, chaque semaine, nous parle d'une femme exceptionnelle. Et cette femme exceptionnelle, cette semaine, c'est Séverine dans Il était une femme. On vous écoute, Alberto.
Il était une fois Séverine, c'est la première grande journaliste. Caroline Rémy, dite Lynn, la future Séverine, née en 1855 à Paris, dans une famille, disons, conformiste. Adolescente, elle rêve d'être actrice, mais ses parents s'opposent à cette vocation. Lynn sera institutrice ou mariée. À 16 ans et demi, elle épouse un homme plus âgé qu'elle, mais déchante vite et après avoir mis au monde un petit garçon, elle quitte cet homme brutal et le domicile conjugal. Elle vivote en jouant des petits rôles au théâtre et en donnant des leçons de piano. À 23 ans, elle entre comme lectrice au service d'une riche veuve suisse dont le fils tombe raide dingue amoureux de Lynn. Le couple s'installe à Bruxelles où Lynn va faire une rencontre décisive. Celle de Jules Vallès, le grand écrivain, auteur de L'Enfant, Le Bachelier, L'Insurgé, qui s'était exilé en Belgique pour fuir la féroce répression versaillaise. Entre Jules et Lynn, c'est le coup de foudre, plus intellectuel que sensuel, il faut le dire. Auprès de lui, elle s'initie aux idées libertaires et anti-autoritaires, à l'écriture et au métier de journaliste. En 1880, à Paris, Après l'amnistie des communards, Lynn devient la secrétaire de Vallès. Ensemble, ils créent un journal, Le Cri du Peuple, où Lynn publie son premier article pour dénoncer la politique coloniale de Jules Ferry, papier signé Séverin, pseudo bientôt féminisé en Séverine. Deux ans plus tard, après la mort de Vallès, Séverine dirige Le Cri du Peuple toute seule jusqu'en 1888. Alors certes, elle n'est pas la première femme à écrire dans un journal, mais elle est la première qui en fit une profession à part entière. Notons-le, c'est après avoir d'abord officié dans la grande presse que Séverine s'engagera ensuite dans une presse plus spécifiquement féministe. Au Cri du Peuple, elle recrute un journaliste, Georges de Labruyère, qui introduit dans la presse française le journalisme d'investigation, inventé, je le rappelle, on en a parlé ici, par l'américaine Nellie Bly. Ainsi, Séverine se déguise en ouvrière pour un reportage sur la grève menée par les casseuses de sucre dans une raffinerie parisienne. Puis, en 1889, à Saint-Étienne, où 100 mineurs périssent dans un coup de grisou, Séverine descend au fond de la mine en costume de mineur. À noter qu'elle ouvre une souscription pour aider les familles des victimes, ce qui lui vaut dans la presse réactionnaire le surnom de Notre-Dame de la larme à l'œil. Quand éclate l'affaire Dreyfus, elle se range aux côtés de Zola et adhère à la Ligue des droits de l'homme. Notons qu'elle fonça interviewer le pape Léon XIII après que celui-ci eut dénoncer l'antisémitisme. Dans les autres journaux auxquels elle collabore, Séverine use d'autres pseudos. Jacqueline pour le Gil Blas, René pour le Gaulois. Non sans malice, dans le Gaulois, René critique Séverine et dans le Gil Blas, Jacqueline critique René. Elle connaît désormais la célébrité, mène grand train et des rumeurs courent sur sa vie amoureuse. Renoir peint son portrait où elle apparaît dans tout l'éclat de sa beauté. Elle sera surnommée la belle camarade par ses amis anarchistes. Survient une autre rencontre très importante, celle de Marguerite Durand qui en 1897 crée La Fronde, seul quotidien entièrement géré, rédigé et diffusé par des femmes. Ce journal qui traite de tous les sujets à fond, politique, sport, finance, culture, est tiré jusqu'à 50 000 exemplaires. Et les crieuses de journaux l'annoncent au cri intentine et provoque de « demander la fronde, l'organe des femmes ». En collaborant à la Fronde, Séverine va résolument s'engager aux côtés des féministes. Elle défendra sans relâche l'émancipation des femmes, le droit de vote notamment, et le droit à l'avortement. Dans les notes d'une frondeuse, alliant l'ironie à la virulence, redoutable polémiste, elle réagit aux attaques et aux moqueries misogynes. Ainsi publie-t-elle une série d'articles visionnaires, bien avant Simone de Beauvoir, intitulée « L'éternel masculin ». Quand on lui suggère un jour d'être candidate à la Légion d'honneur, car elle est très populaire, elle rétorque « Moi, une rosette sur la poitrine ?» Mais la nature m'en a déjà donné deux. En 1914, elle participe à la première manif féministe d'envergure qui rassemble plus de 6000 femmes suffragistes. En 1927, elle prend la défense des anarchistes Sacco et Vanzetti. Elle meurt en 1929, inquiète de la montée des idées totalitaires et fascistes. Son enterrement rassemble une foule immense. À Pierrefonds, sur sa tombe de granit rose qu'elle avait dessinée elle-même, elle avait demandé que soient inscrits ces mots « J'ai toujours travaillé pour la paix, la justice et la fraternité ». Total respect pour Séverine.
Merci Alberto.
Ignorer des dictionnaires.
Mesdames,
hélas.
Vous avez entendu parler de cette Séverine ?
Non, pas du tout.
Et les portraits Merci. D'Alberto d'Il était une femme, c'est sur le site Il était une femme.
Vous les femmes.
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Vous avez bien mérité quelques cadeaux. Les cadeaux, c'est l'affaire d'Alberto, évidemment.
Alors pour vous, Isabelle Carré, comme il n'y a pas que le vin dans la vie, voici La Petite Histoire du Thé de Colin Penn, Librio ouais. Flammarion. Oui, je sais, en plus vous aimez beaucoup le thé.
J'adore le thé,
alors deuxième boisson la plus consommée dans le monde, après l'eau. Eh bien, c'est riche d'une histoire souvent méconnue et romanesque qui est racontée donc dans La
Merci
Petite
beaucoup.
Histoire du Thé.
Speech.
Pour vous, Catherine Sellac, comme il n'y a pas que le thé ou le café dans la vie...
Ouais, c'est le mojito.
Voici, eh ben, presque, les poèmes bachiques et libertins de Abou Nawas aux éditions Verticales. Ça, ça vient de ma bibliothèque. Hein. Ce poète qui vécut au 8e siècle... Surtout pas.
Donnez-lui un peu d'argent, surtout.
Donc, c'est un grand poète qui vécut au 8e siècle en Iran. Il laisse une œuvre d'une grande audace poétique, satirique, mystique, et il fut un chantre du vin, notamment absolument magnifique, Abou Nawas.
Vois ce vin de son arôme te fait présent et d'étincelle constelle tes nuits.
Voilà.
C'est la fin de Vous les femmes et cette délicieuse voix que vous entendez était celle d'une de nos invitées, Catherine Sellac, qui n'avait rien à vendre du tout. Elle est venue pour le plaisir et du plaisir. Nous en avons pris grâce à vous, Catherine Sellac. Face à vous, il y a toujours, pour encore deux minutes, Isabelle Carré, en ce moment au Théâtre de la Renaissance, dans la pièce, l'excellente pièce La Dégustation, aux côtés entre autres de Bernard Campan. C'est jusqu'au 30 juin, du mardi au samedi 21h, samedi dimanche.
16h30, 20 boulevard Saint-Martin, c'est le 10e arrondissement de Paris. Merci Albert Algou à la réalisation de cette émission. Marie-Nic Rimbaud, attachée de production Christine Kern, à la technique Alexandre Chenet. Programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Aurore Auteuil et Marina Lorenzo. Au revoir, bon dimanche à tous à l'écoute de France Inter.
On revient quand soir,
quand vous voulez.
Ouais.
Honnêtement, quand vous voulez.
Moi, je vous donne. On s'inscrit.
La place est prise.
Dimanche prochain, vous venez. Ah ben, on rajoutera des sièges. Hein. Moi, je vous donne rendez-vous demain à quelle heure ? À 6h57. Pétante. Bon dimanche.